Vous écoutez la DW.
That four great nations, flushed with victory,
que quatre grandes nations victorieuses mais lésées n'exercent point de vengeance envers leurs ennemis prisonniers, c'est là un des tributs les plus importants qu'une puissance ait jamais payé à la raison.
C'était il y a 75 ans, presque jour pour jour, le 20 novembre 1945 s'ouvre le procès de Nuremberg dans la ville du même nom en Allemagne. Le procureur général américain Robert Jackson prononce un discours d'ouverture. Pendant près d'un an, on va juger 24 des plus hauts responsables nazis du Troisième Reich. Procès historique, il marquera la fin de la Seconde Guerre mondiale à jamais et ouvrira une nouvelle page du droit international avec des répercussions jusqu'à aujourd'hui. 75 ans après, on se replonge dans l'histoire de ce procès. Et puis page actualité, reportage aussi comme chaque semaine dans cette émission, direction le Brésil où se tiennent les élections municipales en ce moment. Jamais autant de candidates noires ne se sont présentées. On sera avec certaines d'entre elles. Voilà pour le sommaire. Willkommen, je vous souhaite la bienvenue. Los geht's, c'est parti. Nous sommes donc en novembre 1945. Après 6 ans de barbarie à travers le monde, les armes se sont tues depuis le mois de septembre. La Seconde Guerre mondiale est définitivement terminée. Elle a emporté plus de 60 millions de vies à travers le monde. L'heure est à la reconstruction et à la justice aussi donc. C'est dans ce cadre que s'ouvre le procès de Nuremberg le 20 novembre 1945. Un procès intenté par les puissances alliées dans cette guerre contre ceux considérés comme principaux responsables du Troisième Reich allemand. Procès fruit de compromis, on a longtemps discuté pour savoir où il se tiendrait, comment, devant quelle juridiction, avec quels accusés. À l'ouverture, finalement, certains, et en premier lieu Adolf Hitler, ne sont pas présents puisque morts. Mais Hermann Göring, plus haut responsable nazi encore en vie, Rudolf Hess, Hans Frank ou Robert Ley sont présents. 24 accusés au total devant un tribunal totalement inédit, comme le raconte aujourd'hui le docteur en histoire Matthias Gemmelich.
C'était une décision commune qui a été prise par les quatre puissances alliées principales, les États-Unis, l'Union soviétique, la France et la Grande-Bretagne. Et donc ces quatre puissances alliées se sont mis d'accord à ce qu'il y ait un tribunal international qui a la compétence de juger les dirigeants, les représentants le plus haut gradé de l'Allemagne nazie. Et c'est cet aspect novateur dans l'histoire, parce qu'avant, il n'y a jamais eu une telle institution, une telle juridiction qui avait cette compétence et cette responsabilité. Mais on s'est mis d'accord à ce que ce soit un procès équitable. Donc le tribunal militaire international de Nuremberg était un tribunal indépendant. Donc il n'y avait pas des consignes, mais c'était des juges indépendants qu'on trouve en 1945 à Nuremberg.
Et sur le banc des accusés de ce tribunal international inédit, 24 personnes donc. Mais des organisations sont citées aussi, la Schutzstaffel, la SS par exemple, un des principaux organes nazis, ou la police politique, la Gestapo. Accusation du tribunal, complot, crime contre la paix, crime de guerre et crime contre l'humanité. Des accusations que nous connaissons tous aujourd'hui, mais qui à l'époque sont en partie nouvelles dans le milieu judiciaire international. C'est ce qu'explique là encore Matthias Gemmelich.
Par exemple, les chefs d'accusation qu'on a créés en 1945 pour ce procès, les crimes de guerre, mais surtout les crimes contre l'humanité et aussi les crimes contre la paix, donc c'est le fait d'avoir planifié et déclenché une guerre d'agression. Donc ce sont des chefs d'accusation qu'on a créés pour ce procès célèbre en 1945, mais qui existent toujours et qui font toujours partie du droit pénal international, qui sont aujourd'hui, par exemple, appliqués à la haie devant la Cour pénale internationale. Donc on peut bien dire que ça, c'est l'héritage juridique du procès de Nuremberg.
Des accusations inédites, donc, pour un procès singulier, évidemment. En plein mois de novembre, il fait froid dans la ville de Nuremberg, en Allemagne. L'atmosphère pèse. Des dizaines de témoins défilent à la barre au milieu des acteurs directs de la guerre. 75 ans après, Renate Röhn se souvient de ces journées si particulières. Elle était alors présente au tribunal, secrétaire de son père, avocat commis d'office pour un accusé nazi pendant le procès.
On était tendu intérieurement. L'atmosphère était très grave, oppressante, très sérieuse, mais c'était aussi très calme. On n'entendait que les machines du traducteur. L'atmosphère était vraiment, oui, tendue, oppressante.
Geladene Atmosphäre.
Et dans la salle, on sait évidemment que ce sont des atrocités qui doivent être jugées, mais les mots, les témoignages, les vidéos ou les photos des camps de concentration et des amas de corps donnent une nouvelle dimension au procès.
Das war für alle Beteiligten.
Cela a été un véritable choc pour toutes les parties concernées, essentiellement pour tous les avocats, car on n'avait aucune idée de la dimension des crimes. On avait suspecté que des personnes avaient été déportées, on était au courant que des synagogues brûlaient, on était au courant des émeutes du 9 novembre 1938, au cours desquelles des femmes juives en chemise de nuit ont été jetées à la rue. Mais on ne connaissait pas l'étendue des camps de concentration d'Auschwitz, Birkenau, Stutthof, Bergen-Belsen. Et ce fut un choc. Un choc.
Un choc. Es war ein Schock. Man konnte sich nicht vorstellen.
On ne pouvait pas imaginer que de telles atrocités puissent être commises en Europe centrale et par, comme on disait toujours, un peuple de culture.
Au cours du procès, les accusés se défendent, ils récusent souvent leur culpabilité personnelle. Exemple avec l'ancien numéro 2 de Hitler, Hermann Göring.
Ich habe niemals an keine Menschen und zu keinem Zeitpunkt.
Je n'ai jamais ordonné le meurtre d'un être humain, ni à aucun moment ordonné ou toléré d'autres atrocités là où j'avais le pouvoir et les connaissances nécessaires pour les empêcher.
Das Wissen gehabt hatte, solche zu verhindern.
Et les accusés estiment que le tribunal est illégitime. Une partie de la population allemande estime, elle aussi, qu'il est injuste que ce procès soit entre les mains des puissances victorieuses. On critique également le fait que des crimes de guerre, comme des bombardements sur les civils commis par les alliés, ne soient pas traités. Mais le procès se poursuit. 218 jours durant, 240 témoins défilent à la barre, 300 000 déclarations sous serment sont faites. 16 000 pages de procès-verbal des auditions sont écrites. Le 1er octobre 1946, ce gigantesque marathon judiciaire se termine. 12 condamnations à mort, 7 peines de prison et 3 acquittements sont prononcés. Le procès de Nuremberg fera date. Son exemple sera repris par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, pour le tribunal pénal international pour le Rwanda et encore aujourd'hui à la Cour pénale internationale de La Haye. Une CPI héritière du procès de Nuremberg, devenue centrale dans les relations internationales depuis 1945. Un vrai plus pour Christoph Safferling, professeur de droit international à l'université Friedrich Alexander d'Erlangen Nuremberg en Allemagne.
C'est bien ainsi qu'on puisse observer une évolution, que les faits soient pris au sérieux, qu'il soit également clair qu'ils peuvent avoir des conséquences, qu'ils devraient avoir des conséquences. Peut-être que cela prend parfois un peu trop de temps, mais aucun dictateur dans le monde d'aujourd'hui ne peut être sûr qu'un système de justice pénale internationale ne frappera pas à un moment donné.
Une justice internationale critiquée, parfois perfectible certainement, dont il faut discuter sans aucun doute, mais une justice tout de même, une justice en partie donc héritée du procès de Nuremberg. Un procès pour l'histoire il y a 75 ans qui sera suivi par d'autres procès nazis au cours des 75 dernières années. En juillet dernier, un ancien garde SS était encore condamné à de la prison avec sursis en Allemagne à 93 ans. Vue d'Allemagne, deuxième partie, reportage au Brésil cette semaine. C'était le premier tour des élections municipales dimanche dernier sur place. Le premier scrutin sous l'ère Jair Bolsonaro, très critiqué pour sa gestion de la pandémie de Covid-19. Le Brésil est un des pays au monde le plus touché, vous le savez. Il semble que dans ces élections municipales, ses candidats soient en mauvaise posture après le premier tour. Mais là n'est pas le sujet. On s'arrête nous aujourd'hui sur les candidats noirs et les candidates noires surtout. Au Brésil, des recensements ethniques se font et on peut donc savoir combien elles sont, ces candidates. Réponse nombreuses, très nombreuses. Jamais autant de femmes noires ne se sont présentées au municipal. 90 000 au total. Du jamais vu, nous raconte cette semaine Marino Dacher.
Pour la première fois, il y a plus de candidats noirs que de candidats blancs, avec 277 000 candidatures autodéclarées noires, soit près de 50% des candidats. Les femmes noires représentent 23% de plus cette année qu'il y a 4 ans. Mais dans un pays où plus de la moitié des habitants se déclarent noirs ou métis, c'est encore peu. Alors, pour vaincre cette sous-représentativité et faire connaître les idées des candidats dans ce contexte de pandémie, les réseaux sociaux ont été précieux, mais beaucoup s'est joué aussi dans les rues. À São Paulo, le nombre de candidates afro-brésiliennes au poste de conseillère municipale a doublé. Tous les jours, Tamires Sampaio, candidate pour le Parti des Travailleurs, a tracté pour rencontrer les électeurs qui n'ont pas les yeux rivés sur leur téléphone. Ces électeurs, déjà fragilisés par la crise économique, sont en plus grande difficulté à cause du coronavirus. Avocate, militante du mouvement noir née à Guayanas, dans la région est de São Paulo, Tamires s'est formée en droit à l'université privée de Mackenzie grâce aux bourses du programme fédéral ProUni.
Tamires, a vereadora 13011, pode acreditar. Tamires, a preta de Sampa, a voz que não vai se calar.
La noire de São Paulo, comme dit ce clip de campagne, n'a pas été élue conseillère municipale pour le Parti des Travailleurs, mais elle a pu porter sa voix dans cette campagne. C'est ce que les candidates du Parti Socialisme et Liberté, le PSOL, à gauche, défendent aussi. L'héritage de la conseillère municipale Marielle Franco, assassinée il y a bientôt 1000 jours, est dans tous les discours. Cette année, les partis doivent aussi attribuer plus de fonds aux candidats afro-brésiliens, mais ce n'est qu'un début, comme explique Marcel Descôtés de l'Institut Marielle Franco à Rio de Janeiro, créé en janvier 2020 pour promouvoir ses candidatures noires.
Ela passa a valer ainda nessas eleições, mas a gente entende que a decisão do STF.
Cette décision du Tribunal supérieur électoral vaut déjà pour ces élections, mais elle a été votée après que les partis politiques ont réparti les financements. Donc nous estimons que l'impact de cette décision va se voir à moyen et à long terme. Nous venons de publier les résultats d'une étude sur la violence politique au Brésil contre les femmes noires et la violence institutionnelle. C'est aussi ce que nous ont dit certaines femmes. Il y a une violence de l'absence de ressources pour concourir à des élections. Quand vous ne donnez pas des ressources égales pour que ces femmes mènent leur campagne, vous maintenez cette inégalité. C'est positif car cette mesure a influencé le débat public, mais on n'en verra réellement les effets que lors de la prochaine élection en 2022.
Ryan Soares, habitante de la favela de Maré, 23 ans, a fait campagne pour Renata Souza, candidate pour le Parti Socialisme et Liberté.
Ça a toujours été important d'avoir des femmes noires en politique. Mais pour la première élection municipale après la mort de Marielle Franco, c'est devenu urgent. Marielle était la seule conseillère municipale qui incarnait les combats des femmes noires et elle a été assassinée brutalement. Donc on se soutient. Les femmes soutiennent les projets de loi présentés par d'autres femmes. Et puis nous sommes majoritaires dans la société. Ce sont les femmes noires qui travaillent pour que cette société avance. Elle s'occupe des enfants, travaille comme domestique, donc c'est indispensable qu'elle soit représentée en politique pour garantir les droits et l'égalité pour tous, vous voyez.
Ce soir de mars 2018, Ryan Soares participait au même événement que Marielle Franco et elle pense chaque jour à ces graines que la conseillère municipale a semées par son combat pour les droits humains dans ce pays si inégalitaire. Femmes, noires, nées dans les favelas, LGBT, toutes ces luttes se rejoignent et au premier tour, la veuve de Marielle Franco, Monica Benicio, a été élue conseillère municipale pour un mandat féministe et antifasciste. Sur son compte Twitter, elle clame « Nous sommes élus, Rio de Janeiro aura une conseillère municipale lesbienne assumée, transformons ensemble Rio de Janeiro ». À São Paulo, Marino Dacher pour la Deutsche Welle.
Et le deuxième tour de ces élections municipales est prévu le 29 novembre, on en reparlera évidemment. D'ici là, le 25, mercredi prochain, c'est Anne Le Touzé qui reviendra aux commandes de Vue d'Allemagne pour d'autres infos. Un merci tout particulier avant de conclure ce magazine cette semaine à Ralph Bosen et Johannes Schenk pour leurs interviews et leur travail de préparation de cette émission concernant le procès de Nuremberg. Podcast de cette semaine et anciennes émissions à retrouver sur notre site et certaines applis de podcast, comme toujours. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite où que vous soyez santé et comme on dit en allemand, alles Gute, tout bon. Bis bald. À très bientôt. Tschüss.